Vous écoutez, on lit pour vous.
Gilles Archambault, une certaine idée de soi. Un texte de Philippe Fortin, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires. Le ciel est clair et les rues du Vieux-Montréal sont étonnamment sèches et nues en ce lundi matin de décembre. On se croirait à Paris, tiens. L'immeuble où vit M. Archambault est moderne et le rez-de-chaussée est entièrement vitré. On ne soupçonnerait pas qu'un nonagénaire y habite, encore moins un écrivain. Sitôt le bouton de l'interphone poussé, pourtant, une voix enthousiaste s'écrie « Je viens vous chercher !» Et voici donc ce cher Gilles Archambault, canne à la main, l'œil vif et la démarche empressée, qui vient à ma rencontre. Au bout de quelques pas et après les salutations d'usage, nous aboutissons devant sa porte où des ouvriers munis de grosses machines à pression semblent sur le point de s'atteler à un travail qui fera du bruit. La lourde porte de son logis me semble toutefois assez épaisse pour étouffer l'éventuel vacarme du corridor. Une fois à l'intérieur, nous passons directement au salon où M. Archambault prend place dans le fauteuil qu'il utilise désormais pour écrire ses livres, ayant depuis belle lurette, me confesse-t-il, délaissé l'usage de son bureau de travail. Je lui demande ce qu'il fait de bon ces derniers temps. Citation « Je n'ai jamais pensé vivre si longtemps. C'est maintenant une vie dans laquelle il n'y a plus rien qui se passe. » Fin de citation, annonce-t-il presque d'emblée. Citation « J'ai toujours pensé que le bonheur, ça n'existait pas. Qu'il y avait des moments de bonheur, ça oui, mais le bonheur en tant que tel, non. Je pensais ça à 30 ans et je le pense encore. Cela dit, je ne me plains de rien. Pour employer un cliché épouvantable, j'ai eu non pas une belle vie, mais une vie convenable. Je voulais écrire, j'ai écrit. Je voulais enseigner, mais sachant que j'étais trop timide pour ce faire, je suis entrée à Radio-Canada, où au bout de quelque temps, j'ai pu mener une carrière qui me plaisait. Vous savez, je gagnais ma vie en côtoyant tous les jours François Ricard, Jacques Brault, Wilfrid Lemoine, André Langevin, Fernand Ouellette, et ainsi de suite. Ce furent de belles années. » Fin de citation. Tout en lui faisant remarquer qu'il est encore vivant, je m'enquiers du rapport qu'il entretient avec la littérature, lui qui a passé près de 30 ans à interviewer les plus grands noms du 20e siècle sur la scène du Salon du Livre de Montréal. Citation. Très rapidement, dès 16 ans, je crois, je me suis aperçu que la littérature me permettait de pouvoir m'imaginer trouver un sens au fait de vivre. C'est pour ça que j'ai lu. C'est pour ça que j'ai écrit. Pour essayer de trouver un sens à ce qui, selon moi, n'en avait presque pas. On est dans l'absurde et l'aléatoire par-dessus la tête. Cela dit, on n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas où ça mène tout ça. C'est pour ça que la naissance apparaît comme un phénomène beaucoup plus renversant que la mort, parce qu'il s'agit d'une apparition dans une chose qui s'appelle l'existence, alors que la mort n'est que normale. Tout ce qu'on voit autour finit par disparaître. Fin de citation. Quand on s'attarde un tant soit peu au titre des derniers livres de Gilles Archambault, « Tu écouteras ta mémoire »,« Sourire en coin ou les ruses de l'autodérision »,« Il se fait tard », »,« Mes débuts dans l'éternité », »,« La candeur du patriarche » et tout récemment « Vivre à feu doux », force est de remarquer une certaine constance thématique, disons. Quand je l'interroge à savoir s'il se demande vraiment, tel qu'il l'a écrit, pourquoi son éditeur continue de le publier, il me répond, amusé, citation, « Bien entendu, il y a une certaine pause là-dedans, c'est clair, mais je connais des gens beaucoup plus infatués que moi. N'empêche, à partir du moment où on décide d'écrire, ça veut dire qu'on a une certaine idée de soi quand même. Sinon, on ne mettrait pas son nom sur une couverture, c'est assez clair, je pense. C'est un peu une sorte de fausse humilité. » C'est évident qu'écrire, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas tout non plus. Fin de citation. Questionné quant à la brièveté qu'il privilégie depuis quelques années sous forme de récits ou de nouvelles, l'auteur d'un après-midi de septembre s'explique. Citation. C'est simple. C'est parce que je ne suis plus assez en forme pour lire des briques, vous savez. Alors pour ce qui est d'en écrire. ma conception de l'écriture, de plus en plus, s'est dirigée vers le petit, le condensé. Mais à la base de tout ça, il y a Stendhal, qui ne faisait pourtant pas dans la concision. Le livre qui a été pour moi capital, c'est « Vie de Henry Brulard ». Il essaie de comprendre sa place dans le monde à partir de son enfance, et ça, c'est ce que j'essaie de faire depuis un bon bout de temps. Mais je n'aime pas l'abondance, j'aime mieux le choix. C'est Valérie qui disait « entre deux mots, choisir le moindre ». Je suis convaincue aussi que même dans les plus grands romans, disons « Guerre et paix », il y a des tas de pages inutiles. Dans un livre le moindrement abondant, il y a forcément des pages qui n'existent que pour nous faire aboutir aux pages importantes. J'essaie de m'en tenir à celles-là. Fin de citation. Pour un homme dont les vues sur la vie sont plutôt pessimistes, voire nihilistes, l'absence de cynisme dans son œuvre, en regard de l'omniprésence d'une certaine ironie, a pour le moins de quoi étonner. À ce sujet, il me déclare, citation, « C'est parce que j'aime l'humanité, moi. J'étais beaucoup plus intéressé par les gens que je rencontrais et par leurs failles. On dirait que ça me consolait des miennes propres. Pour moi, c'est clair que l'ironie, c'est une façon d'être, une sorte de défense, peut-être aussi un empêchement. Mais bon, c'est une façon de voir le monde. L'ironie, surtout, ce que j'ai essayé d'en faire en tout cas, c'était dirigée contre moi plutôt que contre les autres. Il y a une sorte d'honnêteté là-dedans. Cette authenticité-là est très précieuse. » Fin de citation. En toute fin d'entrevue, celui qui vient de faire paraître « Vivre à feu doux », un recueil de nouvelles où ses multiples doubles fictionnels veillent au grain, me lance au moment de nous serrer la main. Citation. « Je pense que les vérités, ça court les rues. Mais pour ce qui est de savoir les dire, seuls certains écrivains y parviennent. » Fin de citation. Il pensait peut-être à Calais, à Perros ou à Busatti. En ce qui me concerne, j'ai tout de suite pensé à lui. C'était Gilles Archambault, une certaine idée de soi, un texte de Philippe Fortin, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les Libraires.
Encourage l'auto-obésité. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 30 mars 2024 dans Le Devoir. Bienvenue chez les patapoufs à roulettes. Tout est gros et même super gros maintenant dans nos sociétés surgonflées. Les maisons, les écrans de télé, les portions de fast-food et les gens eux-mêmes. Alors, bien sûr, les voitures n'échappent pas à la règle. Elles souffrent d'auto-obésité. En 20 ans, la masse de l'auto standard vendue au Québec s'est accrue de près de 240 kg, ce qui correspond à 1 kg par mois. Le véhicule personnel du Nord-Américain pèse maintenant 1875 kg en moyenne. La Cadillac Escalade ESV, 115 000 $, s'étend sur près de 6 mètres, pour un poids avoisinant les 3000 kg. C'est autant que la Cadillac V16 Sedan d'il y a un siècle qui était déjà comparée à un paquebot roulant. C'est préoccupant de voir notre parc automobile grossir année après année, non seulement en nombre d'autos par personne, mais aussi par la taille des véhicules, dit Anne-Catherine Pilon, analyste de la mobilité durable et des politiques de l'organisme écologiste Équiterre. Cette situation a un impact sur l'environnement, sur la sécurité des passagers et sur l'endettement des ménages. Christian Savard, directeur général de Vivre en ville, ajoute que l'électrification du parc automobile ne réglera pas les problèmes de fond. On ne remet pas en question notre obésité énergétique, soit fossile, soit électrique. On ne remet pas non plus en question la norme sociale des véhicules de plus en plus volumineux et lourds en train de s'installer. Les ménages n'ont jamais été aussi petits et les voitures aussi grosses. C'est assez spécial. Alors, à qui la faute? les causes vont de la multiplication des équipements standards à la propagande publicitaire en passant par la responsabilité des consommateurs qui justifient leur choix par l'état des routes, la sécurité, le besoin d'espace ou l'absence d'autres options, tout simplement. La popularité exponentielle des véhicules utilitaires sport, VUS, s'explique aussi en partie par la fiscalité et les lois qui encouragent la production, l'achat et l'utilisation de véhicules personnels de plus en plus gros. L'État, par ses interventions comme par son laisser-faire, s'avère un grand complice de l'embonpoint automobile. Le politique détient aussi des clés pour en changer. La faute du choc pétrolier. Madame Pilon, comme M. Savard, rappelle que les lois fédérales américaines sur les performances énergétiques des véhicules adoptées après le choc pétrolier de 1973 ont paradoxalement stimulé le gonflement de la taille de ceux-ci. Washington a alors imposé des barèmes sévères pour les autos tout en exemptant les petits camions de moins de 4000 kg environ afin de ne pas nuire aux petites entreprises. Les constructeurs ont ensuite proposé de plus en plus de camions légers, dont des VUS, et de moins en moins de petites autos. Le Québec et le Canada se plient aux règles américaines. Les camionnettes à essence et hybrides, ce qui comprend les VUS et les fourgonnettes, accaparaient 73 % des parts de marché en 2023. Le segment des sous-compacts a aussi vu ses ventes reculer de plus du tiers. Le nombre de modèles diminue d'année en année. Cet univers boursouflé sera bientôt mis au régime forcé. Washington vient de revoir sa définition de ce qu'est un camion léger. L'écart des émissions maximales permises entre les voitures, 161 grammes par 100 km, et les camions, 276, sera abaissé de 71 % à 22 % d'ici 2032. Le changement est fait pour favoriser le transfert vers des véhicules électriques. Équiterre demande à Ottawa d'adopter ses propres règles et d'éliminer la classification binaire auto-petit camion. Maintenant que tout le monde, travailleur ou pas, utilise le même genre de camion, tous les véhicules devraient être dans la même classe et soumis aux mêmes normes d'émission, résume Mme Pilon. Un coffre de mesures. L'État appuie ou laisse aller le royaume de l'auto, le martyrdom des Anglos, par plusieurs autres moyens. Taxation. La taxe sur le carburant est gelée depuis 2013 au Québec. Elle finance partiellement l'entretien des routes et du transport collectif. Une simple indexation aurait permis d'ajouter 600 millions à ce budget, ce qui couvrirait le manque à gagner des systèmes de transport collectif accumulés depuis la pandémie. Évidemment, les plus gros véhicules thermiques paieraient davantage. Immatriculation. Un surplus de 59 $ sur l'immatriculation des véhicules s'applique depuis janvier sur l'ensemble du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain pour financer le transport collectif. Cette ponction n'est pas modulée en fonction de la taille des autos. L'immatriculation par la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, tient compte de la taille des moteurs. On demande 232 $ pour une cylindrée de plus de 6 litres au lieu de 58 $, mais pas du poids des véhicules à essence ou électrique. La contribution à l'immatriculation par la SAAQ de 30 $ pour le transport collectif n'a pas été indexé depuis 1992. Par contre, Québec donne maintenant le droit aux villes d'imposer une taxe sur l'immatriculation pour financer le transport collectif. Gatineau a annoncé son intention de se prévaloir de la mesure et pourrait fixer la taxe à 90 $ par année par véhicule. Péage. Ils ont pratiquement disparu des routes et des ponts au Québec. Ils sont au contraire de plus en plus présents ailleurs, même aux États-Unis. Paris, Londres et Stockholm font payer les gros véhicules qui veulent accéder à leur centre-ville, protégés par des zones zéro émission. Dès mai, Pour circuler à Manhattan, il faudra débourser 15 $ par auto et de 24 $ à 36 $ pour les camionnettes. La mesure pourrait rapporter 1 milliard par année pour la rénovation du métro new-yorkais qui est en ruine. Stationnement. Les villes ont maintenant le pouvoir de tarifer les stationnements en fonction de la taille ou du poids des véhicules qui utilisent l'espace urbain public. L'arrondissement du plateau Mont-Royal vend plus cher les vignettes pour les gros véhicules, peu importe leur source d'énergie. Ainsi, le propriétaire d'un VUS de plus de 1800 kg paie deux fois plus, 492,90 $, que celui qui a une petite auto. Puissance et vitesse. Entre 1960 et 2020, les voitures neuves vendues en France ont augmenté de 192% leur puissance et de 43% leur vitesse maximale, ce qui se répercute sur la consommation d'énergie et sur la sécurité. L'État pourrait imposer des limites. Les règlements contrôlent au pouce près la hauteur des rambardes des balcons, mais permettent la vente de véhicules pouvant rouler à 240 km/h, note Christian Savard. La culture de la puissance automobile est si profondément ancrée qu'on est collectivement incapable de la remettre en question. Sécurité. Une étude de l'Université d'Hawaï a établi qu'un piéton courait 70% plus de risques d'être tué en étant heurté par un petit camion que par une voiture. En Europe, mais pas au Québec, qui s'aligne encore sur les États-Unis, les tests de sécurité n'impliquent pas de simulation avec des mannequins piétons ou cyclistes. Énorme, mais électrique. Seulement en version électrique ou pas, la mode des véhicules personnels restera, et même celle des grosses et très grosses bagnoles qui demandent plus de matériaux et de métaux rares lors de la construction et plus d'énergie lors des déplacements. Le populaire camion Ford F-150 existe en version branchable. Il s'en est vendu 20 598 exemplaires l'an dernier au Québec, 38% de plus que l'année précédente. C'est 6 fois plus que le nombre de petites voitures, 3253. Avec son programme « Rouler vert », Québec accordait depuis des années une subvention de 7 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique et 5 000 $ pour une version hybride, quelle que soit sa taille. La mesure sera progressivement abolie d'ici 2027, selon une annonce liée au budget de la mi-mars, comme le réclamaient les groupes écologistes. Dans leur logique, une voiture écolo reste un oxymore. Ottawa offre toujours 5 000 $ comme incitatif pour l'achat d'un véhicule zéro émission. Il va falloir arriver à la surtaxation de la taille des véhicules, qu'ils soient électriques ou pas, dit Christian Savard. Des gouvernements donnent l'exemple en taxant peu les petites autos et beaucoup les grosses. En France, les véhicules émettant plus de 117 grammes de CO2 par kilomètre sont frappés d'une pénalité à l'achat depuis janvier 2024. Une Renault Clio, 118 grammes, coûte 50 euros de plus. Une BMW X3 hybride, 147 grammes, demande 1761 euros de plus. Le record appartient à l'Audi RS5 V6 à essence, 203 grammes, avec une surtaxe de 60 000 euros. On le précise, en dollars, cette somme équivaut à 90 000 $, soit un peu plus que le prix de vente de cette voiture au Québec. En plus, Québec et Ottawa viennent d'accorder 7 milliards en subventions à la compagnie suédoise Northvolt, pour qu'elles construisent une usine ici. Reste à voir la taille des batteries produites par cette future usine. Si elle alimente de gros véhicules individuels, où sera le gain environnemental? Certains modèles de Tesla utilisent des batteries 3 fois plus lourdes que celles d'une petite Leaf de Nissan. On va investir dans une usine pour produire nos batteries, mais on ne va pas s'assurer que ces batteries-là soient utilisées pour tel ou tel type de modèle dans des voitures le plus accessibles possible pour l'ensemble des Québécois, dit Mme Pilon. Il y a tellement de choses qui auraient pu être pensées en amont de ça. On doit vraiment repenser nos priorités. Il y a tellement de travail à faire en urbanisme et en aménagement du territoire pour arriver à financer massivement nos transports en commun. C'était « Comment l'État encourage l'autobésité », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 30 mars 2024 dans Le Devoir.
Les oiseaux chantent au printemps. Un texte de George Harrison, paru dans Sélection du Reader's Digest. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les oiseaux chantent au printemps. Un expert nous explique pourquoi. Une hirondelle ne fait pas le printemps? Le printemps est pourtant le moment où la plupart des oiseaux se tournent vers leurs obligations familiales. Ils s'accouplent, construisent leur nid, pondent et élèvent leurs petits. Pourquoi les oiseaux chantent-ils? Le chant des oiseaux est une partie importante du cycle de reproduction qui commence lorsque les oiseaux migrateurs mâles atteignent leurs aires de nidification. Ils arrivent généralement avant les oiseaux femelles, ce qui donne à chaque mâle le temps d'établir un territoire de nidification et de le défendre contre d'autres mâles de la même espèce. Le chant est une forme de communication qui renforce cette propriété et annonce que c'est un territoire occupé. Les femelles, qui arrivent généralement sur les lieux de nidification une semaine ou deux après les mâles, entendent le chant de ces derniers. Et si une chanson les attire, elles s'arrêtent pour espionner le mâle en question. Elles vérifieront alors son plumage et exploreront son territoire pour voir si tout lui convient. En effet, c'est la femelle qui choisit un partenaire, et non l'inverse. Multitude de sonorités. Les chants d'oiseaux ne sont pas toujours une musique douce. Par exemple, les pics aiment bien picorer les tables de pique-nique ou le revêtement des maisons. Ce martèlement printanier n'est pas un effort pour trouver de la nourriture, mais bien une communication avec d'autres pics de leur espèce. La gélinotte huppée mâle attire ses partenaires et défend les territoires en tambourinant. Un bruit sourd qu'elle fait en battant l'air avec les plumes de ses ailes principales, généralement perchées sur un arbre ou une bûche tombée. D'autres tétras, comme les poulets des prairies et les tétras des armoises, émettent un bruit sourd en remplissant d'air les sacs aériens sur les côtés de leur cou et en expirant. Les faisans à collier mâles chantent comme des poulets. Les tourterelles en deuil roucoulent sombrement. Les martins pêcheurs hochent et les hiboux ululent. Et les oiseaux femelles? Le chant est généralement un trait masculin, mais certaines femelles chantent également. C'est le cas des cardinales du Nord féminines qui crée une version plus douce de la chanson du cardinal masculin, parfois à l'unisson avec leurs compagnons. Il s'agit probablement d'un rituel de parade nuptiale pour renforcer leur lien. Comment les oiseaux chantent-ils? Étonnamment, le bec d'un oiseau ne joue pas toujours un rôle avec son chant. En fait, les oiseaux, comme les fauvettes et les viréos, peuvent chanter avec leurs mâchoires fermées ou pleines de nourriture. Ces oiseaux créent plutôt les sons au fond de leur gorge en expirant l'air de leurs poumons. Bien que nous ne sachions pas vraiment comment les oiseaux apprennent à chanter, nous savons que c'est une douce combinaison d'hérédité et de mimétisme. Les oiseaux juvéniles commenceront à chanter dès leur premier automne et hiver. Au printemps, ils sont officiellement diplômés en chant. Ces jeunes oiseaux entendent souvent les chansons d'autres mâles de leur espèce et les imitent, ajoutant une légère touche personnelle. Distinguer les chants des appels. Il y a une grande différence entre les chants d'oiseaux et leurs cris. Le chant est généralement un son plus mélodieux, tandis que l'appel est souvent plus net et plus direct. Les appels sont utilisés soit comme une alarme sonore pour communiquer le danger, soit comme un bavardage silencieux pour localiser les partenaires et autres oiseaux de leur espèce. Par exemple, le cri d'un cardinal nordique est très différent de son chant mélodieux. Quand les oiseaux chantent-ils? Le meilleur moment pour entendre le chant des oiseaux est à l'aube, un matin de printemps. Souvent appelé le cœur de l'aube, le chant des oiseaux atteint leur paroxysme à l'aube, à la fin mai et au début juin, le pic de la saison de reproduction dans la plupart des régions en Amérique du Nord. La durée moyenne des chansons est de seulement 2 à 6 secondes chacune. Heureusement, quelques oiseaux sont connus pour répéter continuellement leurs chansons. Il vaut donc la peine de se lever tôt pour assister au meilleur spectacle musical de la nature. Les grands champions du chant matinal sont certainement les merles noirs ou les rouges-queues noirs. Les ornithologues amateurs s'amusent d'ailleurs à faire le décompte des chants répétitifs des oiseaux. Un moineau chanteur mâle de l'Ohio a déjà interprété 2305 chansons sans interruption. En Virginie, un fouet répète son refrain nocturne au moins 800 fois avant de s'endormir. Le record du monde revient à un viréo aux yeux rouges qui a chanté 22 197 fois en une seule journée. C'était « Pourquoi les oiseaux chantent au printemps? » Un texte de George Harrison, paru dans Sélection du Reader's Digest.